SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 130, mesdames et messieurs, bonjour. On va aborder deux thèmes aujourd'hui, l'Ukraine et la COP28. Et pour en parler, on retrouve Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Marianne.
Coup dur pour Kiev et Nathanaël qui voyait son adhésion à l'Union européenne plus proche et plus concrète que jamais. Mais c'était sans compter la Hongrie et son premier ministre Viktor Orban qui refuse toute négociation. Et ce, dans un contexte assez particulier, puisque après un an de sanctions, eh bien Budapest voit ses aides européennes revenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ?
Il faut que tous les membres de l'Union européenne, Marianne, soient d'accord pour que l'ouverture des négociations avec l'Ukraine se fasse. Et j'insiste bien à tous les membres de l'Union européenne parce que on peut avoir des déclarations de certains leaders, on peut avoir des déclarations de la commissaire von der Leyen. Il faut, sur le papier, pour que ça se fasse techniquement, que les 27 soient sur la même ligne. Et on le sait, pour l'instant, Viktor Orban est plus proche de son allié russe que de l'Ukraine. Et puis surtout, et c'est pour ça qu'on fait le lien avec les aides à la Hongrie qui ont été gelées pendant un an, ça lui permet d'avoir un levier sur ces aides, justement, et de pouvoir en jouer et de pouvoir mettre en rapport finalement ces deux choses qui, sur le papier, n'ont peu de choses en commun finalement, puisque d'une partie ce sont des aides parce que la Hongrie ne respecte pas certains critères pour recevoir ces aides par rapport à l'état de droit, le respect des minorités, des communautés LGBTQI+, de la liberté de la presse, etc. Et de l'autre, les négociations avec l'Ukraine qui ne concernent d'une certaine façon que l'Ukraine et qui n'ont rien à voir avec la politique intérieure hongroise. Et donc on est dans ce moment charnière plutôt, mais aussi charnel parce qu'il y a des relations très personnelles de certains leaders avec, avec ces sujets-là, à un moment où on va avoir le dernier Conseil européen de l'année qui a lieu aujourd'hui, le 14 décembre, et demain, le 15. Et donc, des choses qui vont être quand même assez importantes et qui vont dessiner sûrement le futur de la relation de l'Ukraine avec l'Union européenne.
Mais qu'est-ce que la Hongrie reproche concrètement à l'Ukraine et surtout ce Conseil européen dont vous venez de parler du 14 et 15 décembre ? Peut-il faire changer la position de la Hongrie ou alors Viktor Orban campe-t-il vraiment sur ses positions ?
Alors d'abord, il faut aussi regarder la position d'Orban au regard de la position officielle de l'Union européenne. C'est-à-dire que pour Bruxelles, tout n'est pas non plus fait pour que Kiev intègre directement l'Union européenne. Il y a, comme je l'ai expliqué, plusieurs critères et plusieurs conditions pour pouvoir ouvrir ces négociations. Et pour l'instant, même dans la bouche de Bruxelles, Kiev ne remplit que partiellement 4 des 7 conditions, même si l'Ukraine a réalisé des progrès substantiels depuis le début de ces discussions autour d'une ouverture des négociations. Donc d'abord, ça veut dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir. Ce n'est pas la position de Bruxelles versus celle d'Orban. C'est-à-dire que déjà pour Bruxelles, l'Ukraine doit encore fournir certains efforts. Ce que Orban reproche finalement, c'est assez insignifiant par rapport à ce qui se passe en coulisses. Encore une fois, Orban, sa position par rapport à l'Ukraine, elle est définie par rapport à sa proximité avec la Russie. Mais si on veut parler de ce que Orban reproche à l'Ukraine, il dit par exemple que c'est un pays où le taux de corruption est toujours trop élevé, où il y a un manque de transparence, etc. Mais c'est un peu un couvre-chef pour masquer, encore une fois, la position et la relation qu'a Viktor Orban avec la Russie. Premier point. Et puis deuxième point, Marianne, encore une fois, c'est un levier de négociation pour Viktor Orban pour obtenir d'autres choses et notamment ce dégel des aides et des subventions européennes qui, malgré ce que le leader hongrois peut dire, sont assez importants pour le pays parce qu'il en a besoin pour mener à bien certaines politiques, comme d'autres pays d'ailleurs ont besoin de ces aides et comme c'est le cas il y a une grande redistribution au sein de l'Union européenne. Et donc, encore une fois, c'est un levier pour le leader hongrois.
Vous parliez des 4 des 7 conditions que l'Ukraine remplit. Si négociations il y a, si les 27 se mettent d'accord pour entamer les négociations pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, elles commenceraient ces négociations en mars. Est-ce que ça laisse assez de temps à l'Ukraine pour remplir les 3 conditions manquantes ?
Ça pourrait laisser assez de temps à l'Ukraine, mais surtout, il y a des moyens aussi, d'une certaine façon, de contourner. Parce qu'il faut le rappeler aussi, il y a la volonté, la velléité de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Il y a un narratif assez romantique de partage de valeurs. Il y a de la symbolique aussi, justement, de rejoindre le bloc libre des démocraties libérales européennes et complètement coupé avec l'histoire qui a relié l'Ukraine à la Russie pendant de nombreuses années. Mais c'est aussi un soutien économique dont l'Ukraine a besoin. Mais il y a, par rapport à ce soutien économique, qui donc serait facilité par le fait que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, parce que si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, le pays bénéficiera aussi de ces aides, etc. Mais il y a un moyen, il pourrait y avoir une enveloppe financière, par exemple, qui pourrait être consacrée à l'Ukraine par l'Union européenne, parce qu'il faut envisager toutes les possibilités, Marianne. Il peut que, aussi, on doive contourner ce processus de décision à la majorité qualifiée, dans le cas où un pays, par exemple, ou plusieurs pays, justement, mettraient un veto à cette ouverture des négociations avec l'Ukraine. Donc, oui, Zelensky met toujours une certaine proactivité à vouloir rejoindre l'Union européenne, mais ce dont il a besoin, c'est de l'aide aussi financière européenne. Et il en a d'autant plus besoin que les États-Unis ont déclaré il y a quelques jours de cela qu'ils ne sont plus en mesure de fournir le même volume d'aide en matière d'aide financière à l'Ukraine et donc soutenir l'effort de guerre. Et ça, c'est vraiment le point d'achoppement pour Zelensky, c'est ce besoin encore de soutien financier dans le cadre de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Je voudrais revenir un instant sur Viktor Orban, enfin la Hongrie plus précisément. Le commissaire européen en charge du dossier est hongrois. Et c'est un proche de Viktor Orban et il a souvent été soupçonné par certains de faire passer les intérêts de son pays avant ceux de Bruxelles. Aujourd'hui, il est dans une position extrêmement délicate. Il assure qu'il fera toujours passer les intérêts de Bruxelles en premier, mais ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on a la vice-présidente de la Commission européenne qui veut ouvrir les négociations sans attendre. Dans quelle situation se retrouve Bruxelles avec ces deux profils très différents qui sont en charge au final de ce dossier ?
C'est le jeu aussi de la démocratie et c'est le jeu à la fois du transpartisanisme et du transétatique. C'est que les commissaires européens, évidemment, ils travaillent pour l'Union européenne, ils représentent l'Union européenne, mais ils n'ont pas été créés ex nihilo de pays qui n'existent pas ou ne sont pas apatrides. Donc effectivement, c'est une question que vous faites bien de poser, Marianne, mais le commissaire l'a lui-même dit, comme vous l'avez mentionné, je ne travaille pas pour la Hongrie, mais je travaille pour l'Union européenne. Et donc, ce n'est pas qu'il faut le croire, mais en tout cas, il se trouve qu'on est dans cette situation un petit peu rocambolesque, où malgré la nationalité similaire de ce commissaire avec le leader nationaliste Viktor Orban, on doit composer avec. Ce qui est sûr, c'est que les Européens ont tout intérêt à décorréler les deux dossiers et à ne pas rentrer dans le jeu d'Orban en mettant en parallèle et en symbiose ces dossiers à la fois de la relation difficile de l'Union européenne avec la Hongrie et de l'ouverture des négociations de l'Ukraine pour intégrer l'Union européenne avec la position très singulière de la Hongrie. Parce que encore une fois, c'est là où Orban veut essayer de conduire son narratif en termes de politique et de ce qu'il veut obtenir et de ce qu'il veut surtout préserver de son alliance avec la Russie, alors qu'en fait, ces éléments doivent être analysés de manière complètement indépendante. Et il faut absolument, encore une fois, que les Européens ne tombent pas dans ce piège-là et restent, d'une certaine façon, soudés et sur une ligne. Ce qui est aussi difficile, Marianne, c'est que les positions des Européens n'ont pas toujours été les mêmes par rapport à l'Ukraine et même les positions au sein d'un même pays. Par exemple, on peut prendre l'exemple de la France, on n'a pas toujours été la même. C'est-à-dire, encore une fois, au début, il y avait effectivement quelque chose d'un petit peu romantique ou de narratif par rapport au fait que l'Ukraine doit rejoindre l'Union européenne. Et puis après, on s'est opposé aux réalités du terrain, à ce que ça implique en termes d'aide financière, mais aussi aux réalités juridiques et administratives. C'est-à-dire que au-delà du soutien à l'Ukraine dans le cadre de la guerre par rapport à la Russie, il y a des critères auxquels l'Ukraine doit répondre qui sont complètement indépendants de cette guerre avec la Russie et qui sont complètement indépendants de l'histoire et de la relation difficile qu'a actuellement la Hongrie avec l'Union européenne.
Merci beaucoup Nathanaël. On le rappelle, il y a ce 14 et ce 15 décembre 2023, un Conseil européen en présence des 27, puis une nouvelle évaluation de la situation en mars 2024 avec peut-être l'ouverture des négociations avec l'Ukraine. Merci beaucoup Nathanaël. Mesdames et messieurs, restez sur SBS French, on marque une très courte pause et Europa Voice numéro 130 continue juste après. À tout de suite.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Europa Voice numéro 130, deuxième partie, toujours en présence de Nathanaël Bloch. Rebonjour Nathanaël.
Rebonjour Marianne.
On parle COP28 à présent, cette conférence mondiale sur le climat. Et Nathanaël, cet accord historique finalement trouvé sur une transition hors des énergies fossiles.
Effectivement Marianne, c'était plutôt mal parti cette COP28. On avait des positions qui étaient extrêmement polarisantes entre plusieurs groupes, pays et groupements d'intérêts. Les pays exportateurs de pétrole, les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie, les Européens, les États micro-insulaires du Pacifique qui sont de plus en plus sous les eaux. Donc on avait l'impression que ça avançait pas beaucoup et de manière assez surprenante, il faut le dire, on est arrivé à trouver un accord, mais pas un simple accord, un accord d'ailleurs qui a été qualifié d'historique sur une transition hors des énergies fossiles. Et cet accord, il a aussi été possible par la proactivité et l'expérience diplomatique du sultan Al-Jaber, qui accueillait cette COP28 et qui en était un des principaux protagonistes à Dubaï et qui a permis justement de trouver ce juste milieu. Alors, il y a toujours des contempteurs de des résultats et de cet accord de la COP, mais en tout cas, de manière encore une fois un peu surprenante, on est arrivé à cet accord dans la nuit du 13 au 14 décembre.
Un accord que certains qualifient d'inespéré. Hein. C'est quoi la différence, les avancées par rapport à l'accord de Paris en 2015?
Il y a eu beaucoup de tractations et il y a eu beaucoup de discussions sur vraiment la nomenclature et la manière de définir en fait cette transition hors des énergies fossiles. Ce qui est important, j'allais dire, il y a deux choses. Il y a d'abord c'est cet abandon qui est progressif des combustions fossiles, c'est-à-dire que...
C'est pas une sortie. Hein.
Non, c'est pas une sortie, c'est un abandon progressif. Si on veut traduire ça dans un langage plus quotidien, on a plus axé sur le mix énergétique d'une certaine façon et la manière d'utiliser ce mix énergétique pour faire la transition de ces énergies fossiles plutôt que des objectifs couperés de sortie complète. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y avait évidemment tous ces pays du Golfe qui étaient dans une opposition frontale avec une sortie totale de ces énergies fossiles. C'est ça, une des principales avancées, c'est avoir réussi à trouver ces mots dans le texte qui ont permis aux pays hôtes de cette conférence de faire avancer les choses. Et puis, la deuxième chose, d'une certaine façon, c'est la neutralité carbone. C'est-à-dire que la neutralité carbone en 2050, le principe de cette neutralité carbone a été rappelé. Et donc, ça a permis de satisfaire, d'une certaine façon, ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette transition en dehors des énergies fossiles et qui a appelé à une fin. Tout simplement, ça a permis de ménager d'une certaine façon la chèvre et le chou. Et c'est ça qui a permis de débloquer la situation qui, encore une fois, était très compliquée et ne permettait pas de voir cette issue plutôt heureuse d'un texte qui s'est imposé, ou en tout cas qui a été signé par les différents protagonistes à cette COP28.
Mais ce qui a été signé, ce sont des ambitions réalisables ?
C'est difficile de dire si c'est réalisable. Il faut voir plutôt en fait si on est sur les tendances qui ont été définies dans les années précédentes et par rapport à ces tendances, si on est toujours aligné en termes de projection par rapport à la fois aux objectifs chiffrés qu'on donne et par rapport au calendrier qu'on donne. Par exemple, on a beaucoup évoqué cet objectif de 1,5 degrés en termes de réchauffement climatique, donc cet objectif de 1,5 degrés. Et ce qui est intéressant dans cet accord, et ce que je trouve aussi qui est une belle prouesse diplomatique de la part d'Al-Jaber et de ceux qui ont négocié cet accord-là, c'est que cette sortie progressive des énergies fossiles, cette transition, elle se fait tout de même, alors que ce n'est pas un arrêt total, elle se fait tout de même en cohérence avec cet objectif des 1,5 degrés de réchauffement. Donc ça veut dire que d'une certaine façon, on reste sur un objectif qui est similaire, mais on a trouvé un autre véhicule pour pouvoir y arriver. Et c'est ce qui a permis, encore une fois, de mettre autour de la table ces différents acteurs, parce que pour les pays de l'OPEP, de l'organisation du pétrole, encore une fois, il est évidemment inconcevable de sortir totalement des énergies fossiles. Mais je vais au-delà de ça, même pour des pays comme la Russie et les États-Unis, c'est de moins en moins une priorité de sortir totalement de ces énergies fossiles. Et le débat s'engage plutôt sur, encore une fois, le mix énergétique dans cette transition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on va utiliser de moins en moins d'énergies fossiles, mais elles ne vont pas totalement disparaître et on va pouvoir intégrer dans ce mix énergétique d'autres sources d'énergie plus vertes, et c'est ce qui permettrait de maintenir ces objectifs-là. Après, il y a toujours des divergences, Marianne, sur, les, sur certaines dates, notamment par rapport à la Chine où des dates, par exemple, 2050 ont été repoussées à 2060 ou 2070. Bon, ben ça, voilà, c'est, ça va être le cadre de prochaines négociations. Mais en tout cas, d'un point de vue et de politique, de diplomatie et aussi d'accord climatique, c'est plutôt un succès inespéré pour cette COP28.
Vous parlez des pays de l'OPEP, vous avez parlé de la Chine, de la Russie, même des pays européens. En quoi cet accord de Dubaï peut et va influer sur la politique de chacun de ces pays individuellement ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des mots aussi qui ont été prononcés dans les articles de certains confrères et qui montrent bien en fait comment maintenant ces accords se font et comment ces accords se font de plus en plus loin finalement du jeu des grandes puissances. On a assisté véritablement à un multilatéralisme climatique. Et c'est très cohérent en fait avec ce qui se passe dans le monde, et c'est très cohérent. Il faut prendre une échelle qui est un peu plus grande que nos dernières années, mais à l'échelle du monde, ça fait pas si longtemps qu'on est sorti de cette confrontation entre deux blocs et cette confrontation post-guerre froide, les États-Unis, le bloc libéral, et la Russie, le bloc communiste. Ça fait la chute du mur de Berlin, c'était...
Il y a 34 ans.
C'était il y a une trentaine d'années, c'était il y a 34 ans. Donc à l'échelle de l'histoire, passer de cette opposition entre blocs politiques à ce multilatéralisme au sein des instances internationales et lors de ces grands raouts internationaux que peuvent être le Forum économique mondial, Davos, la COP et tant d'autres, c'est assez récent. Et donc, ça prouve encore juste que même sur ces enjeux climatiques, de plus en plus, on va être dans des choses fragmentées, avec des alliances qu'on pourrait penser contre nature, avec des groupes de pression qui sont différents. Je le redis encore une fois, on a beaucoup entendu pendant cette COP28 ces micro-pays du Pacifique qui ont été applaudis à tout va, notamment par l'Union européenne, qui espérait quand même un accord un peu plus ambitieux, mais qui ont été très sensibles justement à ces discours de Micronésie, de Vanuatu, de Samoa, qui voient le réchauffement climatique et qui voient cette montée des eaux. Donc ça, c'est un groupe d'acteurs. L'Indo-Pacifique, c'est un groupe d'acteurs de plus en plus important, porté par des pays comme la France, comme l'Australie. C'est ça qui est intéressant aussi à l'échelle de l'histoire et à l'échelle de l'histoire politique, c'est de voir comment, au sein de la COP, comme dans d'autres institutions et dans d'autres raouts internationaux, on voit en œuvre ce multilatéralisme et émerger comme ça des puissances, des intérêts auxquels on n'était pas préparé ou auxquels on n'était pas confronté ces dernières années.
Il y a un dernier point, Nathanaël, que je voudrais qu'on aborde avant de clore cet épisode d'Europa Voice. C'est le fait que certaines personnes ont trouvé ça un petit peu hypocrite que cette COP28, donc cette grande conférence sur le climat, soit organisée aux Émirats Arabes Unis, qui est quand même le 7e exportateur de pétrole au monde. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ça ?
Il y a toujours deux positions, Marianne. Il y a la position, est-ce qu'on ferme complètement la porte et on vit dans une réalité parallèle sans considérer que ces pays existent ? Où est-ce qu'on s'arrange pour mettre ces pays qui, a priori, ne partagent pas ou partagent peu de valeurs sur les rails de ce multilatéralisme politique, sur les rails de ces discussions qui se font à l'échelle du monde ? On peut citer cet exemple de la COP, on pourrait citer aussi l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar. Donc c'est toujours effectivement délicat. C'est est-ce qu'on boycotte ? Est-ce qu'on cancel ? Est-ce qu'on ne considère pas ces acteurs ? Ou est-ce qu'on essaye de trouver un socle commun, aussi petit soit-il, pour pouvoir intégrer ces acteurs? Et je pense, encore une fois, pas de boule de cristal à Europa Voice, et puis on est encore très tôt dans ce multilatéralisme, mais que le fait d'avoir d'aussi organiser ces conférences-là avec tous les défauts que ça a et avec toutes les choses contre nature que ça peut avoir, ça permet aussi d'avoir ces acteurs-là autour de la table qui n'ont pas l'impression d'être laissés à l'écart et qui participent pleinement, autant que les acteurs traditionnels, aux grandes décisions parce qu'on a aussi besoin d'eux. Parce qu'en fait, quand on parle de pétrole et quand on parle de transition énergétique, ce serait un petit peu bizarre de ne pas considérer ceux qui, il y a encore pas si longtemps de cela, pareil, si on se place à l'échelle de l'histoire, on fait que dans les années 70, simplement en fermant le robinet, on a eu une crise mondiale en 73. Donc ils ont un jeu, ils ont un poids important. Bien sûr, ça paraît contre nature. Bien sûr, il y a des images qui sont incroyables en termes d'organisation de ces sommets dans ces pays créés d'une certaine façon toute pièce au milieu du désert. Mais encore une fois, c'est aussi comme ça qu'on avance, en intégrant ces différents pays à la marche du monde et avec une position peut-être un peu plus multilatérale, plus inclusive aussi et moins focalisée sur les pays classiques occidentaux. Cette question, Marianne, juste, elle se pose pas seulement pour la COP, elle se pose pour les Nations Unies, pour le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sera l'occasion peut-être d'un autre Europa Voice, mais il y a bien un moment où, où le fait d'avoir des pays historiques au sein du Conseil de sécurité va créer ou continuera de créer des tensions. Et le partage de gâteaux qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, certains aimeraient aussi avoir une part de gâteau. Mais bon, ça, ce sera pour un prochain goûter.
Merci beaucoup, Nathanaël. Je voudrais apporter une toute petite précision, une correction. J'ai dit 7e exportateur mondial de pétrole en parlant des Émirats Arabes Unis. C'est le 7e producteur de pétrole. Messieurs, dames, c'était Europa Voice numéro 130. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Nathanaël.
Merci, Marianne.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.